La femme que vous venez d'entendre chanter là le raï, c'est Shaba Zahuania. Oh mon Dieu, comment on prononce ça? Zahuania, je crois. Shaba Zahuania. Alors, le raï, on le sait bien, c'est pas seulement un phénomène musical, c'est aussi tout un comportement social et une façon d'être en Afrique du Nord, en particulier en Algérie. Il irrite certains, il enthousiasme d'autres, il séduit, mais en tout cas, personne ne reste intact. Et il y a peu, et bien les milieux intellectuels, politiques et religieux ne voulaient pas se commettre avec ce qu'ils considéraient comme une vulgaire et triviale sous-produit culturel. Et bien pourtant aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, le raï s'est imposé comme un genre dominant dans le Maghreb. Il a sa légende que certains entretiennent soigneusement, ses frasques, ses héros, ses héroïnes, nous allons le voir, et qui savent mettre un petit peu de folie là où il n'y en a pas toujours. Du moins en ce moment, en tout cas en Algérie, je crois que c'est le cas. Alors, parlons de Shaba Zahuania. Alima pour les intimes, eh bien elle a effectué en 3 ans une ascension fulgurante. Elle est issue de ces ensembles exclusivement féminins versés plutôt dans les chants religieux, jusqu'à ce que ces groupes soient noyautés par les shake hats, c'est-à-dire les vieilles, interdites de bistrot et des maisons de tolérance, et Shaba, qui veut dire jeune, elle a la trentaine, Shaba Zahuania, digne héritière d'une autre femme qui s'appelle Rimiti, eh bien, elle est dotée d'une voix aussi magnifique et entêtante qu'un parfum de jasmin, disent certains. Et elle refuse absolument de se faire photographier. Ainsi, elle laisse la porte ouverte à tous les fantasmes et des milliers de fans qui s'arrachent régulièrement ses enregistrements se plaisent à l'imaginer en créature de rêve et en femme fatale, forcément bien sûr somptueuse et sublime. Alors Zahuania, qui veut dire la joyeuse en français, trouble bon nombre d'ados boutonneux même, tout comme d'ailleurs d'anciens adolescents sur lesquels elle exerce encore une fascinante attraction, avec également des effets thérapeutiques sur l'acné juvénile, semble-t-il, surtout quand elle martèle ces mots, je la cite, « Il est ma drogue, mon gardenal, ne cherchez pas à me détacher de lui. » Il est une autre femme qui chante aussi dans le raï, c'est Fadela, qui elle s'est forgée à l'école des vétérans du raï, comme Sheikha Jenia ou Boutaïka Zkfir, et elle a chanté dans les boîtes avant de rejoindre la ville comme à la scène. Une tête pensante du raï qui s'appelle Cheb Sahraoui. Et ils forment en fait un couple très insolite, le couple peut-être même le plus insolite du raï, qui n'hésite pas, quitte à affronter des préjugés tenaces, à clamer devant tout le monde leur unisson en chantant par exemple « Oh Jean, comment me défaire de son emprise ? Comment oublier la chaleur de son corps ?» Alors je vous rappelle leurs deux noms, c'est Shaba Zahuania et c'est Shaba Fadela. Et nous retrouvons Morane qui nous accompagnera tout au long de cette émission.
Il y a des filles qui se marient, qui disent oui pour la vie. 10 ans de passion passive, de vouloir les îles où rien n'est tranquille. Elle rêve de plus savoir ni quel temps ni quelle tête il fait. Quand les enfants vont dire bonsoir, elles enterrent l'espoir. Il y en a qui cassent et qui pleurent. Si l'habitude qui tue, c'est bon, ou si le fil des jours qui tournent en rond finit par donner mal au dos. Toi qui pensais marcher à côté d'elle, tout droit comme si c'était écrit, en la serrant t'avais pas vu ses ailes, ni la valise sous. Thank you. t'as toutes les qualités. Tendre, intelligent, doux, amoureux de la simplicité. Mais peut-être n'as-tu pas cette folie au bout des doigts, cette obsession du danger. D'énergie pour vaincre ton Capharnaüm, tu fais bien semblant. Moi je sais que tu casses et tu pleures en repassant le bonheur. Mais n'oublie pas demain. Si l'habitude qui tue, c'est bon. Ou si le fil des jours qui tournent en rond finit par donner mal aux dents. Toi qui pensais marcher à côté d'elle, tout droit comme si c'était écrit. En la serrant, t'avais pas vu ses ailes, ni la valise sous son lit.
Musique de femme, paroles de femme dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8. Les paroles, la musique, c'est Morane et le piano, c'est aussi Morane. Nous la retrouvons encore dans notre émission aujourd'hui. Le 8 mars, c'est bien Journée internationale des femmes. Le 8 mars, c'était bien sûr aussi à Genève. Alors que s'est-il passé à Genève à l'appel du collectif 14 juin de EFI, Espace Femmes International et d'autres associations de femmes? Tout se passait à la maison du Grütli à Genève. Et cela a commencé vendredi soir, 19h, avec la première de Carnet de Groot, un film qui retrace le trajet Helsinki-Beijing du train de la paix 1995. Alors le film retrace les étapes de ce voyage de 1200 km, non qu'est-ce que je raconte, 12 000 km Helsinki-Beijing, organisé par la WILF, en français la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, pour porter son message de paix au forum des organisations non gouvernementales de femmes qui se tenait à Pékin en marge de la 4e conférence mondiale de la femme de l'ONU. C'était donc en septembre 1995. Alors ce voyage, un défi, mais surtout une aventure humaine pour les 232 femmes qui, au gré de leur rencontre avec les femmes de 9 pays traversées entre Helsinki et Pékin, ont fait ce film. C'était la version français-anglais, 55 minutes, réalisée par Vania Bamberger et auquel ont contribué largement Isabelle Eklin et Mai Piaget, que nous avions reçu sur notre antenne alors qu'elle revenait tout juste de Pékin. Donc c'était en septembre dernier.
Struggled for all over the world in women's movements, the international women's movements, and retain it for the next generations. This is the history.
Vous entendez la bande sonore du film. Nous le retrouverons de temps en temps, mais nous allons tout de suite d'abord retrouver des femmes dans la rue. c'est la première rencontre qu'ont fait les femmes du train Helsinki-Pékin.
Les arrêts dépassent rarement 24 heures et le programme est mené au pas de course. Entre train, gare et hôtel, un étrange balai d'ombre, vite évanoui, nous laisse deviner les conditions de vie en Russie après la perestroïka. La crise frappe plus durement les femmes de tous les milieux, particulièrement les femmes âgées, silhouettes faméliques qui nous hanteront longtemps.
Alors nous retrouverons carnet de route, le carnet de route de ce train de la paix qui a fait le trajet Helsinki-Beijing en septembre dernier, enfin en août dernier pour arriver en septembre à Beijing. Mais nous allons nous retrouver plus globalement maintenant dans les événements, enfin les manifestations organisées pour le 8 mars à Genève. Et ceci en compagnie de Marina Decaro du collectif 14 juin, à qui j'ai demandé de faire un petit peu le tour d'horizon de tout ce qui s'était passé pour en faire aussi avec nous un petit bilan. Marina Decaro, au téléphone, elle aussi.
Marina, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu, nous faire partager un peu ton impression, ton bilan de ce qui s'est passé à Genève pour marquer la Journée internationale des femmes? Le comité du 14 juin avait organisé un certain nombre de choses. Ça a commencé le 8 mars à midi en ville de Genève avec la présence des petites femmes silencieuses. À ton avis, c'était un regroupement encore important des femmes à Genève ce 8 mars?
Bon, je trouve que dans l'ensemble, c'était assez positif parce que d'une part, nous avons pu marquer cette journée et le faire en collaboration avec les femmes des organisations internationales, ce qui était intéressant parce que à cette occasion, nous avons fait connaissance avec plusieurs d'entre elles et cette collaboration peut se poursuivre. Donc en soi, c'est déjà un point positif. Et ensuite, bon, on a été capable d'organiser toute une série d'activités. Donc ça montre qu'il y a bien un mouvement qui existe toujours et qui a des choses à dire et qui veut le dire à la population.
Par exemple, lors de la présence des petites femmes silencieuses au Bourg-de-Four, le vendredi à midi, les gens s'arrêtaient, s'interrogeaient. Le thème était donc les femmes domestiques, c'est ça?
Oui, donc nous avons voulu marquer un peu une petite manifestation concernant le problème des employés domestiques qui paraît quand même de plus en plus important. Donc d'une part, on a à Genève le phénomène des employés domestiques, du personnel diplomatique qui n'ont aucun droit et qui sont dans des situations qui sont proches de l'esclavage. Et on connaît, il y a eu plusieurs affaires déjà qui sont connues publiquement, où on voit que ces personnes n'ont pratiquement pas de recours. Donc bon, nous avons voulu nous manifester par rapport à cela. Et de ce point de vue, le rassemblement au Bourg-de-Four était symbolique, mais enfin, il était assez réussi. Il y avait un certain nombre de personnes, et puis les gens ont vu ce qui se passait. Ça a eu une répercussion à la télévision aussi. Enfin, de ce point de vue, c'était réussi. Mais au-delà des employés du personnel diplomatique, il y a le problème général des employés domestiques et tout ce qui se passe autour de la migration des femmes des pays les plus pauvres vers les pays plus développés, hein, et qui en ce moment, donc avec les problèmes de mondialisation et d'appauvrissement, est un phénomène qui augmente. Et disons qu'on a l'impression qu'à Genève ou dans d'autres villes en Europe, par exemple, on profite passablement de ces femmes qui sont obligées d'émigrer pour survenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Alors, il nous semblait qu'il fallait prêter de l'attention à cet élément-là.
Donc ce sujet sera repris par les organisations de femmes encore, puisqu'il a été esquissé, abordé lors de ce 8 mars.
Oui, je crois qu'on va essayer de suivre ce problème parce que c'est quelque chose qui prend de l'importance, de plus en plus d'importance, et qui nous semble vraiment assez significatif de la situation des femmes, hein, par rapport au travail domestique d'une part. Je pense aussi qu'il y a un aspect qu'on n'a pas du tout traité mais auquel il faudrait s'intéresser, c'est le problème du trafic de femmes par rapport à la prostitution qui est aussi en plein développement et qui est grave. Et ce genre de thème-là, il faudra qu'on s'en occupe aussi probablement.
Et tu as l'impression que les femmes à Genève et en Suisse s'intéresseront ou se mobiliseront sur ce thème, bien que ça ne nous touche pas nous-mêmes immédiatement, si ce n'est peut-être comme employeuse, je ne sais pas.
Oui, alors c'est ce qu'il faudra voir. Hein. Là, je pense qu'on a à discuter et puis qu'il faut élaborer des positions et voir comment on le traite. Mais il me semble que ce serait à faire parce qu'on ne peut pas rester indifférente à ce problème et qui prend de l'importance hein, à l'heure actuelle. C'est clair qu'il y a 20 ans, il y avait moins de personnel domestique dans la même situation qu'à l'heure actuelle.
Il y a eu un débat d'ailleurs, une rencontre qui était organisée sur ce thème avec la présence d'une femme représentant le syndicat Sans Frontières. Donc on a rediscuté, on a abordé cette question-là lors d'un débat le samedi cette fois-ci. Hein.
Oui, donc le samedi après-midi, il y a eu un débat donc où il y avait d'une part une femme du syndicat Sans Frontières, et puis par ailleurs, il y avait aussi deux femmes philippines, donc l'une qui était une employée domestique philippine et la deuxième qui appartenait à l'organisation de Philippins en Suisse. Hein. Et nous avons discuté de ces problèmes. Alors, on a vu que c'est difficile. Ces personnes sont dans des situations extrêmement difficiles parce que elles sont sans aucune défense. Hein. Et si elles se révoltent ou qu'elles veulent quitter leur employeur parce que les conditions sont trop insupportables, elles doivent d'une part trouver un nouveau logement, ce qui ne va pas de soi, et ensuite elles sont sans ressources pendant beaucoup de temps. Donc c'est assez difficile. Mais enfin, on a commencé la discussion et je pense qu'on va continuer à collaborer vraisemblablement avec le syndicat Sans Frontières. On va voir comment on peut s'articuler avec eux.
Le 8 mars, enfin, ces deux journées, le vendredi et le samedi, ont été l'occasion aussi de faire un peu aussi le bilan de choses qui avaient déjà été enclenchées. Par exemple, le vendredi soir, on a pu voir un film sur un voyage qui a été organisé cet été pour la conférence de Pékin. C'était un film qui suivait le train de la paix Helsinki-Pékin, organisé par la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. Ça s'appelait Carnet de route. Là, il y avait beaucoup de femmes. Tu as eu la sensation que les femmes ont apprécié ce film, qu'elles se retrouvaient, étaient contentes de se replacer dans un événement antérieur.
Oui, je crois que c'était assez réjouissant de voir ce film. Bon, la salle était bondée et on a vu, cela c'était le soir de la première, donc le vendredi 8 mars, mais on a repassé le film le samedi après-midi et c'était de nouveau bondé. Et bon, une partie des personnes qui étaient là le vendredi, je crois que c'était certaines avaient participé au voyage, mais il y avait par ailleurs d'autres personnes, il y avait aussi des hommes qui étaient là. Et c'était, je crois que les gens étaient très contents. En tout cas, les échos que j'ai eus des personnes qui avaient vu le film étaient très positifs. Certaines se disaient qu'elles regrettaient de ne pas avoir participé, d'autres pas, mais enfin, dans l'ensemble, des gens étaient très, très intéressés de voir ce qui s'était passé pendant ce voyage, parce que, c'était d'une part la traversée de tous ces pays, mais aussi tout ce qui se passait à l'intérieur, où on voit qu'il y avait énormément d'échanges, de travail de groupe, de débats très riches, et qui n'était pas facile parce que de faire cohabiter toutes ces nationalités, toutes ces femmes très différentes, était une expérience assez unique. Et puis aussi, les visites qu'elles ont faites dans les villes où elles se sont arrêtées étaient très intéressantes parce qu'il y avait des discussions avec des femmes des villes qui étaient traversées. Il se passait vraiment beaucoup de choses et c'était intéressant à voir.
Il y a eu encore un autre moment symbolique, disons très fort aussi, d'une activité, d'un engagement des femmes de Genève. C'est la rencontre avec une femme membre de l'équipe d'animation du projet Medica que soutiennent les femmes en noir de Genève en Bosnie, ce centre de thérapeutique pour accueillir les femmes qui ont été violées en Bosnie. Je crois que c'était un moment particulièrement fort.
Oui, c'était très, très émouvant. Donc, il y avait, peut-être, 20-25 femmes qui étaient là au débat. Je n'arrive pas à évaluer, je n'ai pas compté. Et, Gabi Mishkovski, qui venait de Cologne, mais qui est très souvent en Bosnie, a raconté la situation des centres médicaux. Donc, comment ces centres s'étaient créés, ensuite, le travail qu'ils faisaient, et comment ils évoluent, et les problèmes qu'ils rencontrent actuellement. Hein, parce que maintenant, on voit que la guerre semble s'arrêter, mais il y a toutes sortes de problèmes qui restent ouverts, et elle a très bien expliqué cela. C'était un moment qui était très fort et très émouvant. Les gens étaient très... Ouais, les femmes qui étaient là étaient très secouées d'entendre tout cela, parce qu'on voit que le travail qui est fait est très important, mais aussi très difficile, et que la situation là-bas est vraiment pas résolue, et que les problèmes qui ont été soulevés par la guerre, ils restent toujours très graves, avec le retour notamment des hommes qui étaient à la guerre. Il semble qu'il y a des nouveaux problèmes qui se posent, et bon, on ne sait pas très bien comment ça va continuer. D'après ce que Gabi disait, donc les centres auraient vraiment un sens et qui devraient continuer à exister. Mm-hmm. Donc c'était vraiment un moment très fort. Je crois que ça a été ressenti par toutes les personnes qui étaient là.
Donc tu retires de l'ensemble de ces manifestations du 8 et 9 mars un bilan plutôt positif à t'entendre.
Oui, je crois que dans l'ensemble, on peut dire qu'il s'est passé des choses qui étaient... C'était bien de le faire. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu pas mal d'échanges et pas mal de rencontres. Bon, j'aurais quand même... je regrette un petit peu comment ça s'est passé du point de vue du lieu. On a été au Grutli, qui nous a été offert par... Enfin, proposé... Oui, offert, dirons-nous, par la ville de Genève. Donc, on était très contents d'y aller. Mais tout compte fait, on peut dire que... Les lieux se prêtent mal aux genres d'activités qu'on voulait faire. C'est un peu éparpillé du point de vue de la situation des salles, des couloirs et tout ça. C'est pas très favorable de ce point de vue. Et bon, pour une autre fois, on en tiendra compte. Mais dans l'ensemble, je crois que c'était positif.
Mmh. Oui, pour y avoir été vendredi soir, c'est vrai qu'il y avait des femmes qui disaient « Mais il y a beaucoup de monde. » Il y avait des gens qui arrivaient en disant « Il y a beaucoup de monde, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ?» On voyait le beaucoup de monde, mais on ne savait pas pourquoi. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu problématique, ce mélange de gens qui viennent dans cette maison pour différentes choses. Et puis, pourtant, les femmes n'étaient pas si apparentes que ça en tant que 8 mars, quoi.
Ah ouais. Et puis bon, aussi, un autre problème qu'on a vu, c'était simplement au niveau de comment indiquer le programme et ce qui se passe et tout. Il y a tellement de papiers, d'affiches dans tous les murs qu'on ne voit plus rien, par exemple. Alors, pour les débats, on voulait indiquer que ça se passait au deuxième étage. On a eu toutes les peines du monde à le signaler parce qu'on pouvait mettre des annonces, mais elles ne se voyaient pas dans la masse d'informations qu'il y a. Donc bon, il y a des problèmes de ce type. Et puis... Les salles étaient au deuxième, il fallait les trouver, c'était compliqué. Bon, je crois que ce n'est pas le lieu le plus favorable pour une journée comme ça, mais on en tiendra compte.
Nous avons eu au téléphone il y a un petit moment Sakina qui nous racontait comment elle a vécu son 8 mars en Algérie. Elle nous disait entre autres qu'il y avait beaucoup, beaucoup de femmes. Je n'ai pas eu cette sensation le vendredi, je ne sais pas ce qui s'est passé le samedi. Est-ce qu'à ton avis le 8 mars reste ou est un moment de retrouvailles des femmes encore à Genève par exemple ?
Je crois que ça l'est, mais c'est, disons, les femmes qui sont sensibilisées, c'est quand même une minorité, à mon avis. Ce n'est pas encore vécu comme quelque chose qui concerne toutes les femmes. Je crois que la situation est vraiment... Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en Algérie, où en fait, les femmes, simplement parce qu'elles sont femmes, elles sont menacées dans leur existence même. Donc... Le mouvement est sans comparaison.
Donc il y a plus besoin d'un moment de retrouvailles quand il y a urgence que dans notre situation.
Bien sûr, et le sentiment, disons, d'identité ou d'affirmation de soi est beaucoup plus fort forcément dans une situation de crise que dans celle qu'on connaît à Genève. Mais je crois quand même que le fait de faire exister le 8 mars et de se rallier à ce mouvement qui est international, Où les femmes partout dans le monde se bougent et se manifestent, le simple fait d'affirmer cela et qu'il y a des femmes qui se reconnaissent dans ce mouvement est important. Et dans ce sens-là, je trouve que c'est important de maintenir cela.
Ce qui m'a frappée, entre autres, c'est de voir, par exemple, comme un journal comme la Tribune de Genève, dont on ne peut pas dire qu'il est particulièrement féministe, décide tout à coup de consacrer, j'ai plus compté les pages, mais au moins une dizaine de pages à des sujets concernant les femmes.
Oui, en ça, je trouve que c'était bien que ça puisse se faire. Bon, dans la Tribune, ils ont peu parlé des associations elles-mêmes, par exemple, des associations féminines. Il y a eu des articles sur des thèmes. Mais n'empêche qu'il y a toute une série de journalistes qui se sont engagés dans la rédaction de ces articles, qui ont travaillé certains sujets, qui en ont parlé. Enfin, c'est un travail qui est en soi assez positif. Et je crois que même si parfois c'est tenu... Le mouvement des femmes est quand même plus vivant qu'il y a quelques années, me semble-t-il. Il me semble qu'il y a une sorte de petite revitalisation qui est intéressante. Et bon, qui se justifie d'autant plus parce qu'on sent venir une vague assez négative qui arrive bon, des États-Unis, mais qu'on sent partout en ce moment. Donc, de ce point de vue, je pense que c'est on commence à réagir et à renouveler le mouvement, peut-être. En tout cas, c'est dans ce sens qu'il faudrait aller.
Est-ce que peut-être le 14 juin sera le moment plus, le point de repère plus de la lutte des femmes? Maintenant, en Suisse, le 14 juin est peut-être devenu plus significatif que le 8 mars?
Enfin, je crois que c'est différent. Hein. Bon, le 14 juin, on verra cette année ce que ça donne, parce que, disons, il y a bon, une décision de l'US, de l'Union syndicale suisse, pour en faire un mouvement qui soit articulé avec l'entrée en vigueur de la loi sur l'égalité, qui entre en vigueur le 1er juillet. Donc, bon, c'est une tentative pour faire apparaître le problème des inégalités salariales et de la transparence des salaires. Donc, on va voir maintenant ce que les femmes en font. Hein. Ça dépend. Si, effectivement, il y a une mobilisation qui est forte et que les femmes bougent là autour, ça peut être une grande journée. Mais ça dépend aussi des femmes elles-mêmes. Hein. Ça dépend de ce que les organisations font pour mobiliser et puis de comment les femmes s'engagent dans le mouvement. Il y a quelques années, en 91, c'est bien parce que les femmes ont senti le mot d'ordre et se le sont approprié que la journée du 14 juin a été aussi massive. Mmh. On verra si cette fois, c'est toujours comme ça.
Et si le sujet qu'on leur propose les concerne?
Voilà, si elles se sentent concernées. Hein. Voilà. C'est clair qu'en 91, les femmes s'étaient senties concernées, ça avait reflété, ça avait correspondu à quelque chose qui était... Il y avait une demande pour faire quelque chose comme ça, et puis les femmes ont bougé parce que ça correspondait à leurs besoins. Cette année, on verra. La situation est différente. Maintenant, on est en pleine crise, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de craintes, il y a une sorte de... Bon, les gens rentrent dans leur coquille. Alors, est-ce que cette fois, on va réagir de la même manière? C'est à voir.
Ok, bah merci beaucoup Marina, et puis à très bientôt.
Au revoir.
And clearly, that's still like here in Russia now, but also in Ukraine, that still you spend more than 20% for the military, and this is too much in times of crisis. We will focus on the nuclear weapon-free world. We see how the people suffer here, and we will see it in Almaty and in China again. We will demand for more women in decision-making positions related to peace and war. And of course, you will find the others in the dialogue, how we can transform the society that economic resources and participation is available for everybody.
But over the last 5 years, we are seeing organized fascist elements involved in those racial attacks.